VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Dakar, 14h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. En Guinée équatoriale, plusieurs membres de la famille présidentielle ont été promus à de hautes fonctions militaires selon un décret présidentiel rendu public ce lundi. Le président Théodore Obiang Nguema a nommé son fils Théodorine Nguema Obiang, qui était déjà vice-président, général de division des forces armées terrestres. Également promu généraux, le beau-frère du président, Victor Yanonso Okomo, et son cousin, José Enema Obama. Le beau-fils du président Fausto Abe Sofuma, lui, devient général de division de l'armée de l'air. Le clan Obiang détient le pouvoir dans le pays depuis 1979 et ses nominations ont été décidées à l'occasion de la commémoration du cinquantenaire de l'indépendance de la Guinée équatoriale, fêtée le 12 octobre en grande pompe à Malabo, en présence de plusieurs chefs d'État. Le président Obiang est le doyen mondial des chefs d'État en termes de longévité au pouvoir et son régime est régulièrement accusé d'atteinte aux droits de l'homme par ses opposants et des organisations internationales. Le Burundi accuse la Belgique d'avoir commandité l'assassinat en 1961 du prince Louis Rwagasore, héros de l'indépendance et membre de la famille royale burundaise. Selon Bujumbura, Bruxelles a aussi sa main dans les différentes crises qui ont secoué le Burundi depuis cet assassinat. Jean-Roger Bion.
C'est la première fois que le gouvernement burundais accuse officiellement la Belgique d'être responsable de l'assassinat du prince Louis Rwagasore, risquant de détériorer encore davantage les relations entre les deux pays. L'assassinat est survenu quelques mois avant l'accession du Burundi à l'indépendance. Le véritable commanditaire qu'est le royaume de Belgique, puissance coloniale de l'époque, qui était farouchement opposé à l'indépendance immédiate du Burundi, n'a pas encore rendu de compte, dénonce le porte-parole du gouvernement dans un communiqué. Le gouvernement envisage de mettre sur pied une commission technique ad hoc pour enquêter sur les assassinats de Rwagasore et des siens, ajoute-t-il, faisant référence à ses deux enfants morts en bas âge quelques mois après sa disparition. Le gouvernement accuse également la Belgique d'avoir une part de responsabilité dans les différentes crises politico-ethniques qui ont endeuillé le Burundi depuis son indépendance.
République démocratique du Congo, la grève des enseignants continue dans la ville de Beni, province du Nord Kivu, dans l'est du pays. Les participants à l'arrêt de travail exigent le retour de la sécurité dans la région avant de reprendre les cours. La grève a été déclenchée après le massacre d'au moins 18 civils dans un quartier de Beni, suivi d'une série de manifestations d'élèves. Les autorités promettent un dialogue avec les syndicats des enseignants. Plus de détails avec Charlie Kasereka, envoyé spécial de VOA Africa Beni, pour ce reportage.
C'est depuis le jeudi dernier que la grève a été lancée. Tous les établissements scolaires dans la région de Beni restent fermés. Les deux grands syndicats des enseignants du Congo, à savoir SIECO et SINECAT, ces derniers réunissant tous les enseignants des écoles conventionnées catholiques en soutien aux élèves et enseignants tués lors du dernier massacre ici à Beni. Ils exigent la sécurité avant toute reprise des cours. Palou Kougislin, secrétaire permanent du syndicat des enseignants du Congo à Beni.
Nous sommes fatigués, trop c'est trop. L'État nous a toujours promis des résolutions, mais ces résolutions restent théoriques. La situation continue à devenir grave. C'est pour cette raison que nous avons déclenché une grève. Nous ne pouvons pas mettre la vie d'autres enfants à danger, même des enseignants.
Les parents d'élèves dépassés par les multiples tueries soutiennent la mesure et appellent les autorités à réagir le plus vite possible. Kavira Kamate, la trentaine, mère de quatre enfants, explique.
Vraiment, nous soutenons les enseignants depuis le massacre. Vraiment, nous ne savons pas où est-ce que nous allons finir. Et avec la vie que nous menons en ville, nous ne savons pas comment nous allons chaque fois payer les enseignants. Nous sommes menacés à ville comme aux chiens. Comme les autorités aussi ne peuvent pas aussi se taire, je pense bien qu'eux aussi vont prendre courage de chercher une solution.
Dans un communiqué de presse sorti ce week-end, les professeurs d'université de Beni viennent aussi de reporter la rentrée académique qui devrait intervenir ce lundi 15. Selon ces communiqués, la situation sécuritaire actuelle dans la région ne permet pas un bon climat d'enseignement. La rentrée académique est donc reportée de 2 semaines. Le maire de la ville de Beni, M. Nyoni Bwanakawa, par crainte de sacrifier toute une année d'études, projette de rencontrer les corps enseignants afin de trouver une solution.
Il est vrai, la décision du corps du personnel enseignant est consécutive à la situation sécuritaire qui prévaut au niveau de la ville de Béni. Je compte rencontrer le personnel enseignant dans les très prochains jours, discuter avec eux profondément quant à ce qui concerne la question, mais je crois que de la rencontre que nous aurons avec eux et pourra surgir une solution, étant donné que le calendrier scolaire a toujours été très contraignant.
Cette grève arrive au moment où la région de Béni connaît une situation sécuritaire volatile, mais aussi confrontée à l'épidémie de la maladie aviaire Ebola depuis août dernier et qui a déjà fait au moins 130 décès. Charlie Kasereka, VOA Afrique, Béni.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Élections municipales et régionales en Côte d'Ivoire. Plusieurs personnes ont été blessées dans la nuit de dimanche à lundi à Grand Bassam, près d'Abidjan, quand la police est intervenue pour disperser des manifestants qui réclamaient la proclamation des résultats de l'élection municipale dans cette localité, alors que les deux principaux candidats revendiquent chacun la victoire. Le candidat du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, et maire sortant, Georges Ezalé, se déclare gagnant avec plus de 1300 voix d'avance. Mais le porte-étendard du parti au pouvoir, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, Jean-Louis Moulou, accuse le camp de M. Ezalé de fraude et de violence et affirme avoir remporté le scrutin. Au total, les élections municipales et régionales en Côte d'Ivoire ont été marquées par de nombreux incidents et contestations de résultats. Pour le moment, la Commission électorale indépendante n'a pas encore proclamé les résultats des élections à l'échelle nationale. Or, ce scrutin représente un test important avant les présidentielles de 2020. Gambie, plus de 20 mois après le départ en exil de l'ex-président Yahya Jammeh, les autorités gambiennes ont mis en marche ce lundi une commission vérité, réconciliation et réparation pour faire la lumière sur les violations des droits de l'homme commises sous le régime Jammeh. Mais un éventuel jugement de l'ancien militaire qui a régné sans partage pendant 22 ans sur le pays paraît encore peu probable. La commission, qui est présidée par un ancien diplomate auprès des Nations Unies, Lamine Cissé, comprend 4 femmes, dont la vice-présidente Adélaïde Sossé. L'ensemble des communautés ethniques et religieuses du pays est représenté au sein du groupe. Nigeria, la Croix-Rouge a appelé dimanche les autorités nigériennes à obtenir la libération des 2 travailleuses humanitaires enlevées en mars par le groupe djihadiste Boko Haram. L'ultimatum fixé par le groupe djihadiste qui menace de les exécuter étant sur le point d'expirer. Il reste moins de 24 heures avant la date limite, a déclaré le Comité international de la Croix-Rouge dans un communiqué appelant le gouvernement nigérien à agir d'urgence. Actualité hors d'Afrique maintenant. L'Arabie Saoudite promet de riposter à d'éventuelles sanctions une réaction qui fait suite à la menace de châtiment sévère proférée par le président américain Donald Trump en cas d'implication avérée de Riyad dans la disparition du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Plus de détails avec Abdourahmane Dia.
Dans un entretien à la chaîne de télévision CBS, le président américain Donald Trump a pour la première fois estimé possible l'implication de Riyad dans le sort de M. Khashoggi, disparu le 2 octobre, date de son entrée dans le consulat de son pays à Istanbul. « Si Riyad est responsable, il y aura un châtiment sévère », a dit le président américain. Son conseiller économique Larry Kudlow a souligné que le président américain était très sérieux. Hier, la bourse de Riyad a subi une baisse de plus de 7%, sa plus grave dégringolade en 3 ans, avant de clôturer en baisse de 3,5%. Riyad a dit rejeter entièrement toute menace ou tentative de l'affaiblir, que ce soit via des menaces d'imposer des sanctions économiques ou l'usage de pression politique. Si des sanctions sont appliquées, le royaume répondra avec de plus grandes sanctions, a prévenu un haut responsable saoudien. L'économie du royaume a un rôle vital et d'influence pour l'économie mondiale, a-t-il déclaré.
Et pour terminer, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a symboliquement rendu dimanche ses terres à une population noire qui en avait été dépossédée sous l'apartheid et promis d'accélérer ce type de transfert dans le cadre de sa future réforme agraire. Nous écrivons l'histoire, nous réparons une injustice historique en rendant leur propriété à ses détenteurs légaux, a souligné M. Ramaphosa lors d'une cérémonie à Mpangeni dans la province du KwaZulu-Natal dans le nord-est. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.